Bonjour tout le monde. Ça va bien? Vous êtes en forme? Vous avez bien chanté? J'écoutais tantôt Stéphane, il avait l'air d'un gars qui est connecté comme à la télévision. On m'a dit que. Quelqu'un, il parle à mesure. Il se souvenait. Il pensait à ça un petit peu. Mais il n'était pas connecté. Il n'était pas connecté là. Ce matin, je ne sais pas si ça va apparaître, ça. Oui? Ah oui? Moi, j'ai une série de questions pour vous ce matin. Vous allez avoir les réponses. Il y en a deux ou trois qui ont l'air d'être prêts à répondre. OK. Première question. Dieu contrôle tout, est-ce vrai? Oui, OK. Est-ce que Dieu domine sur Satan? Évidemment, la réponse, c'est oui. On lit dans Daniel, le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et il la donne à qui il le désire. Et selon Jean 12, le diable est appelé le prince de ce monde. Il est vrai qu'il est appelé le prince de ce monde, mais ce n'est pas lui qui a le pouvoir final. Le pouvoir final appartient à Dieu et à Dieu seul. Cependant, nous lisons dans 1 Pierre, « Soyez sobres, restez vigilants, soyez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchez qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Vous avez vu le mot « souffrance » En général, les gens ont passé par des moments de souffrance. Vous savez, la souffrance, c'est le moyen que Satan utilise pour attaquer les croyants. La souffrance est le moyen que Satan utilise pour attaquer les croyants. Et si nous souffrons, c'est parce que Dieu l'a permis. Si on ne souffre pas, c'est parce que Dieu l'a permis. C'est lui qui donne ou non la permission au diable de nous éprouver. La gueule du lion qui rôde et rugit se referme sur nous que si Dieu le veut. C'est Dieu qui a le dernier mot et qui domine. Ce n'est pas le diable. Même, vous êtes d'accord avec ça? C'est aussi ce qu'on voit dans l'épître de Jacques. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou nous ferons cela. Ce n'est pas marqué « si Satan le veut ». C'est « si Dieu le veut ». Lorsqu'il nous arrive quelque chose, qui que nous soyons, si Dieu le veut, ce n'est pas Satan qui domine, c'est Dieu qui domine. Si on prend l'exemple de Job, vous avez déjà eu des études sur le livre de Job. Lorsque Satan cherchait à détruire Job, il a d'abord dû demander la permission à Dieu. Et c'est après avoir obtenu la permission qu'il a pu attaquer cet enfant de Dieu. On lit dans le chapitre 1er, verset 12, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Il y a une limite. « Ne porte pas la main sur lui. » En d'autres termes, cela signifie « Je te permets d'attaquer mon enfant, mais tu dois respecter les limites que je vais te donner. » Et au chapitre 2, il dit « Le voici, je te livre. Seulement, épargne sa vie. » On voit encore là la limite. Et après le chapitre 2, on n'entend plus parler du diable. Vous avez tous lu Job. On n'entend plus parler du diable après le chapitre 2. Dieu s'en sert seulement pour la mise en scène. Parce qu'après ça, Dieu va travailler avec Job. Ce que Dieu veut, c'est une rencontre avec Job. Job, ce n'est pas le thème de l'homme qui souffre. C'est le thème de l'homme qui va avoir une rencontre avec Dieu. Dieu va avoir une rencontre avec lui, puis on voit à la fin qu'il y en a eu une aussi. Dieu veut une rencontre avec Dieu. Dieu veut une rencontre avec son enfant, Job. On va tourner, si vous voulez, dans Luc. Luc, chapitre 22, s'il vous plaît. Luc, chapitre 22. Croyez-vous que Dieu est souverain? Oui. Si oui, lorsque vous êtes attaqué et que vous souffrez, croyez-vous que Dieu l'a permis? Même si ça ne va pas votre affaire? Croyez-vous qu'il limite les attaques? Vous avez l'air d'être tous d'accord avec ça, même si vous ne criez pas fort. Mais, même si vous êtes d'accord avec ça, quand ça vient le temps de la mettre en pratique, on est un petit peu moins d'accord. Quand on passe par l'épreuve, par les difficultés, là, whoop, Dieu contrôle tout, est-ce vrai? Oui. Mais là, est-ce qu'il est en train de contrôler? Ben là, je ne sais pas trop, là. Ça va pas bien, moi, là. Ça a l'air d'aller bien pour tous les autres. Mais pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. On se pose, dans ce temps-là, on commence à douter. On appelle ça le doute. Dieu n'a pas changé. Dieu est encore là. Il y a quelqu'un cette semaine qui avait rencontré, qui disait qu'il a passé un moment difficile, puis à un moment donné, il n'a pas dit ce qu'il a dit, mais il nous a mentionné que l'impatience était au maximum. Puis là, je pense que j'ai dépassé un peu les bornes. Puis là, il s'en faisait un peu avec ça, puis je lui ai demandé au Seigneur pardon, et cela. Du coup. Mais j'ai dit, garde, pendant que tu t'énervais en bas, là, Dieu était au-dessus, puis il disait, hey, je suis là. Il dit, oui, c'est ça. J'ai réalisé ça, puis j'ai arrêté. Peu importe ce qui nous arrive, Dieu est en contrôle, c'est lui qui a le dernier mot de vous. Luc, chapitre 22, nous lisons, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé, comme j'ai, mais j'ai prié pour toi afin que la foi ne défaille pas et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères ou que tu seras restauré. Encore là, Satan n'a pas pu faire ce qu'il voulait avec Pierre, puisque Dieu a permis jusqu'à une certaine limite. Dieu a accordé l'autorisation de tenter son disciple, comme pour Job, mais il a mis une limite. Il a mis une limite à la même chose. Il dit, tu ne détruiras pas la foi de Pierre, tu feras seulement le faire trébucher ce soir. Mais regardez bien ce qui est écrit dedans, la dernière phrase. Quand tu seras revenu. Ce n'est pas marqué « si tu reviens ». Si c'était marqué « si tu reviens », ça veut dire que c'est possible qu'il ne revienne pas. Mais quand tu seras revenu, c'est que le Seigneur savait que Pierre était pour revenir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui contrôle. C'est lui qui contrôle la situation. Le Seigneur, il dit à Pierre, il dit, garde, dans pas de temps, là, dans peu de temps, cette nuit-là, tu vas me renier. Mais tu vas revenir. Puis quand tu vas être revenu, tu vas affermir mes frères. Pourquoi qu'il pouvait dire ça? C'est parce que c'est le Seigneur qui contrôle la situation. C'est Jésus qui dirigeait cette situation et non le diable. Le diable avait la permission d'aller jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. Dieu contrôle tout. Avec ce qu'on vient de voir, vous semblez d'accord avec ça. Je ne vois pas beaucoup de signes de tête, mais je vois que vous suivez très bien, que vous êtes bien d'accord avec moi. On n'a pas trop venu jusque-là. Mais j'ai une autre question pour vous. Pourquoi Dieu a-t-il permis que son peuple soit esclave en Égypte pendant 400 ans? Moi, quand j'ai commencé à lire, la première fois, j'ai lu à Genèse, puis la deuxième fois, puis la troisième fois, il y a un verset sur lequel j'accrochais tout le temps. Mais on m'avait enseigné, ils ont dit, quand tu lis la Bible, tu la lis pareil comme quand tu manges du poisson. Quand tu manges du poisson, tu attrapes une arête, tu la mets de côté, tu n'arrêtes pas de manger, tu continues. Alors, quand tu lis ta Bible et tu arrives avec un verset qui est difficile, tu mets ça de côté puis tu continues à lire. Plus tard, peut-être que ça va t'expliquer plus loin ou tu vas l'apprendre plus tard. Mais moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai recherché. Et le verset qui m'a amené un peu de difficulté au début, moi, c'était celui-là. Je suis Dieu, le Dieu de ton Père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi. À celle-là, j'ai eu de la misère un petit peu. Moi-même, je descendrai avec toi. Comment Dieu va descendre avec le peuple d'Israël en Égypte pour qu'il devienne esclave? Comment? Je ne saisissais pas cette idée-là, mais comme vous êtes en haut, j'ai fait mes devoirs et j'ai trouvé la réponse. Au début du livre de l'Exode, on retrouve le peuple complètement en Égypte. Hein? Mais pourquoi Dieu a permis ça? Si Dieu contrôle tout, pourquoi a-t-il permis cela? On va ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 12, s'il vous plaît. Genèse chapitre 12. Si Dieu contrôle tout, Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Je ferai de toi une grande nation. C'est par pure grâce que Dieu a choisi Abraham parmi toutes les nations. Abraham n'a eu rien de mérite dans ça. Mais Dieu lui a fait une promesse. Et c'est ainsi qu'est né le peuple d'Israël au sein duquel Jésus, le Messie, devait venir. Et la promesse est répétée au chapitre 13. La promesse est répétée au chapitre 13. Ensuite, il a fait une alliance avec Abraham. Et j'aimerais qu'on considère ensemble cette alliance-là au chapitre 15, verset 13. On va lire chapitre 15, verset 13. Chapitre 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enlevé après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Le Tout-Puissant, pour une raison qui était la sienne, avait décidé de conduire son peuple en Israël pour plusieurs siècles à l'étranger, et imaginez 4 siècles ou 4 générations. Mais une seule explication, vous avez au verset 16. La cause des Amoréens. La seule raison qu'il nous donne dans le texte. La faute des Amoréens. Ça ne nous dit pas grand-chose. Pourquoi Dieu est descendu en Égypte? À cause de la faute des Amoréens? Est-ce que Dieu contrôle tout? On va aller dans le contexte, on va regarder comment il s'est passé. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, lui, connaissait l'histoire, il s'en allait chez son oncle Laban. À son retour de chez son oncle Laban, Jacob a rencontré son frère Ésaü, duquel il a obtenu le pardon. Ésaü est parti pour Séir, alors que Jacob, lui, il s'est amené à Sukkot. Et on va lire Genèse, chapitre 33, verset 16. Chapitre 33, verset 16. Chapitre 33, verset 16, dit le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi on a appelé ce lieu le nom de Sukkot. Sukkot veut dire cabane de branches. Une chose intéressante ici, là, vous avez les versets 17, 18, 19 et 20. C'est-à-dire qu'entre le verset 16 et le verset chapitre 34, il y a 10 à 15 ans. Il y a 10 à 15 ans qui se passent là. Alors, on se souvient ce qu'on a lu tantôt. Jacob part de son oncle, qui descend. Là, il rencontre son frère. Bon, ils s'ajustent ensemble. Ésaü s'en va à Séir. Jacob descend. Mais Jacob était supposé s'en venir à Canaan. Mais il ne s'est pas emmené à Canaan. Jacob est arrivé quelque part comme ça, puis il est descendu, puis il est arrivé au torrent de Jabbok. C'est là qu'il a construit ses cabanes de branches. Puis c'est là qu'il est resté peut-être une dizaine d'années. Au bout d'un certain temps, il a traversé le Jourdain, puis là, il est arrivé à Canaan. Et c'est là qu'il a commencé. C'est là que l'histoire de Jacob commence. C'est là que l'histoire d'Israël commence lorsque Jacob revient en Canaan. L'histoire de Jacob et ses fils commence à ce moment-là. suite à toute l'explication qu'Abraham avait donnée, Abraham, Isaac, Jacob. Environ 10-15 ans qui s'est passé, peut-être qu'il a perdu du temps. Là. On pourrait avoir toutes sortes d'applications qu'on pourrait faire là. Mais à ce moment-là, un grave danger menaçait la famille patriarcale. Imaginez, là, ils viennent d'arriver en Canaan, les Amoréens sont encore là. Mais là, il y a plus que les Amoréens. Il y a plusieurs peuples qui sont là. Il y a plusieurs peuples qui sont là. Et là, il y a un grand danger pour la famille patriarcale. On peut voir le rapport de Siméon et Lévi avec les gens de Sichem, au chapitre 34. Lorsque Dinah, leur sœur, fut déshonorée par Sichem, on peut voir l'histoire de Judas et de Tamar, au chapitre 38. Ces deux faits sont des preuves évidentes que la famille patriarcale était en danger. C'est facile de constater que les enfants de Jacob avaient commencé à subir l'influence de tous ces peuples autour. La preuve, regardez chapitre 34, verset 1er. Dinah, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Qu'est-ce qui va arriver avec les filles du pays? Ils vont faire quoi là-bas? Elle avait commencé à avoir une mauvaise influence avec les autres groupes païens qui n'étaient pas les Juifs. Dieu voulait un peuple à part. Et puis, durant tout ce temps-là, tout ce qui est arrivé, c'est Jacob avec 70 personnes, avec sa famille. Ça, c'était le peuple d'Israël. Alors, quelle sera la réaction de Dieu devant ce peuple-là, devant son peuple, qui sont à peu près 70, Jacob et sa famille, et que là, les enfants commencent à aller visiter, aller se promener un peu dans les villes, puis aller avoir des contacts avec les autres. Ça veut dire que dans peu de temps, il va y avoir un mariage avec des non-juifs. Est-ce que Dieu va laisser faire ça? Est-ce que Dieu contrôle tout? Comment il va se prendre? Écoutez bien ça. Dieu remédie à cet état de choses en la transportant en Égypte, au milieu d'un peuple qui ne s'amalgamait pas, comme les Cananéens avec les étrangers, et avait en particulier horreur des bergers. Ils pourront donc vivre là, en dehors de toute influence étrangère. Ça a-tu du sens? Dieu est en contrôle de tout. Il voit son peuple qui est là, qui vont commencer à aller voir les autres peuples. Dieu, OK, on va y prendre. Je vais descendre avec vous autres en Égypte. On va vous placer une place, parce que c'est que les Égyptiens, pas de problème, les Égyptiens n'en veulent pas des bergers. Il n'y aura pas de mariage mixte là. Ils ne veulent rien savoir de ça. Alors, le peuple d'Israël, là, vont pouvoir grandir. Dieu avait dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. » Lorsqu'ils sont descendus en Égypte, ils étaient 70. Quand ils sont sortis, ils étaient combien? Ils étaient 2 millions. 600 000 hommes de pied. Dieu a pris son peuple, l'a descendu en Égypte, il est devenu un gros peuple, puis là, il l'a ramené. Là, ça va être un autre chemin, ça va être Josué, puis les Juifs, etc. C'est intéressant. C'est intéressant de voir comment Dieu contrôle toutes choses. Mais écoutez bien. C'est important d'accepter que tout ce qui nous arrive, peu importe ce qui nous arrive, croyons que Dieu est souverain. Puis quand je vous dis ça, moi, ça me fait frémir. Parce que quand il m'arrive des choses que j'ai de la misère avec, puis là, je me rappelle, Dieu contrôle tout. Ce que tu fais, Dieu le sait, c'est lui qui veut ça. Mais ce n'est pas par hasard que Joseph rapportait les mauvais sons à ses frères. Ce n'est pas par hasard qu'une cabane d'Ismaélites passait par là. Ce n'est pas par hasard qu'elle se dirigeait vers l'Égypte. Ce n'est pas par hasard que Joseph prospérait dans la maison de Potiphar. Ce n'est pas par hasard que Joseph a vécu 12 ans en prison. Ce n'est pas par hasard qu'il a pu expliquer les songes à Pharaon. Ce n'est pas par hasard que Pharaon l'a établi gouverneur du pays d'Égypte. Ce n'est pas par hasard que vous passez telle ou telle situation, ou que je passe telle ou telle situation. Ce n'est pas par hasard. Dieu contrôle tout, puis c'est ça qu'il veut. Il veut nous amener là afin que nous réagissions d'une façon telle qu'on va pouvoir glorifier son Fils. Tout ce qui arrive, c'est pour glorifier son Fils. Mais si on ne réagit pas de la bonne façon, son fils n'est pas glorifié. C'est tout simplement ça. Mais croire que Dieu est souverain n'empêche pas la douleur, n'empêche pas la perte d'un être cher, la perte de travail, perte de nos biens, jugé par les autres, accusé faussement. Ça n'empêche pas ça. Pas toujours facile d'apprendre le contentement. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 6, c'est marqué, c'est une grande source de gain. Un gain, c'est quoi? Que la piété avec le contentement. Tu ne seras jamais content si tu n'es pas pieux. Tu ne seras jamais content si tu n'as pas un bon attachement avec le Seigneur. Cette semaine, j'étais avec un groupe, on se posait la question, c'est quoi les difficultés qu'on a, tu sais, les péchés qu'on fait, puis tout ça, puis on commençait à en mettre une liste. Puis c'est quoi le péché qui est plus flagrant, qu'on a le plus de misère avec? La majorité dit que c'est l'orgueil. Vous pensez, vous autres? Mais c'est pas vrai. C'est l'impiété. Parce que si on a un bon attachement avec Dieu, on va être capable de maîtriser l'orgueil, puis la jalousie, puis tout ce que vous voulez. Quand on a des petits problèmes qui nous arrivent quelque chose, c'est parce qu'on n'est pas bien connecté avec Dieu. On n'est pas une bonne relation avec Dieu. La piété, c'est un fervent attachement à Dieu. Puis quand on va avoir un bon attachement avec Dieu, toutes les autres choses, on va être capable de les maîtriser par la grâce de Dieu, parce qu'on va être bien connecté avec lui. Il faut avoir un petit écouteur dans l'oreille, là. Puis il nous parle. Puis il arrive des situations, puis on dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais, là? Seigneur, qu'est-ce que je fais, là? Dieu protège son peuple. Ah, le peuple a dû souffrir. Oui, le peuple a dû souffrir, mais c'était pour le protéger des influences des peuples étrangers. Pensez-vous que l'Église est confrontée à un danger similaire aujourd'hui? Les mélanges des chrétiens avec des non-chrétiens, de plus en plus, il y en a. Hein? Moi, un groupe là, que je trouve qui ne doivent pas l'avoir facile, là, c'est nos jeunes à l'école. Alors, nous autres, depuis vieux, là, quand on est allé à l'école, on apprenait quand même des choses qui étaient bibliques. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Même j'ai entendu cet été, dans une colonie de vacances, on parle de Dieu, puis à un moment donné, il y a un jeune qui s'est levé, puis il a dit au prédicateur, « Hey! » Il dit, « C'est qui, ce Dieu? » Des gens. Fait qu'imaginez nos jeunes à l'école qui sont là, qui sont confrontés, qui entendent toutes sortes d'histoires tout le temps. C'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Il faut prier pour les jeunes. Mais est-ce que l'Église est confrontée à un danger comme le peuple d'Israël a été confronté à ce danger? Oui. Relation entre mariage. Des choses qui se pratiquent même parmi les chrétiens. Le concubinage, le mal qui est appelé bien, puis le bien qui est appelé mal, puis les gens qui mentent, des chrétiens qui mentent, là. Je vais passer d'une main pour les compter. C'est facile de voir les gens qui disent. Des fois, ce n'est pas un mensonge, c'est une demi-vérité. Tu sais. Ils ont probablement lu Abraham et Sarah. Là. C'est une demi-vérité ou quelque chose du genre. L'avortement. Vous savez qu'il y a même des chrétiennes qui se sont fait avorter. C'est ça, dans le monde d'aujourd'hui. L'homosexualité, le manque de discernement. Moi, ça, c'est un des points moi, qui me touche le plus dans ces années-ci, le manque de discernement côté doctrinal. Moi, je suis Facebook, j'aime ça parce que je vois passer toutes sortes de choses. À un moment donné, je vois un beau cadre, c'est marqué « Le miracle de l'amour ». Ah, que c'est donc beau les catholiques, ils font des belles choses, ça. Mais savez-vous que l'Église catholique n'a rien changé, a juste modelé la surface? L'Église catholique romaine n'est pas la véritable Église de Jésus-Christ. Elle est apparue sous l'empereur Constantin et développée à travers les âges. Le Vatican II est seulement un essai de réorganiser la présentation pour être mieux accepté. Le Saint-Esprit n'est pas les écrits du Vatican II. C'est ce qu'ils enseignent, les autres. Le Saint-Esprit n'est pas la tradition. Ça, c'est l'enseignement de Vatican II. Je pourrais vous en parler. Quand on en parle, il y a des personnes qui s'avaient fait frémir parce qu'ils disent, écoutez, mes enfants, moi, qui ont entendu l'Évangile, puis aujourd'hui, ils ne suivent pas le Seigneur, ils vont embarquer là-dedans. Bien, là, Attachez-vous au Seigneur. Rapprochez-vous du Seigneur. La doctrine va devenir de plus en plus. Satan est en train de tout embrouiller ça. Mais vous en amenez un autre point. Je vois souvent un peu des petits cadres de Joyce Meyer. Elle est bien populaire, elle. Faites une petite recherche sur Joyce Meyer. Juste marquer ça, là. Vous allez trouver des affaires comme John MacArthur, puis Rick Anderson, juste pour ces deux-là, là, disent, elle enseigne que Jésus a cessé d'être le Fils de Dieu sur la croix. Elle raconte avoir des révélations non explicables par la Bible. Est-ce qu'on peut faire confiance à ça? Pourtant, elle dit des bonnes choses. Elle dit des bonnes choses. Manque de discernement dans la doctrine. Éprouver tout esprit et savoir si l'Esprit de Dieu dans 1 Jean au chapitre 4. Pensez-vous que Dieu devrait intervenir auprès de son Église? Ralph Chalice lui disait que « Je ne serais pas surpris que nous vivions un temps de persécution avant l'enlèvement. » Il y en a qui actuellement qui sont persécutés. Et nous ici, est-ce qu'on le sera? Je ne sais pas. Mais lorsque Dieu permet quelque chose, arrive, son but est toujours de glorifier son Fils. L'histoire de la descente en Égypte est préparée à partir du chapitre 37 par la vente de Joseph à Potiphar et devient le moyen dont Dieu se sert pour sauver la famille patriarcale. Ainsi, Joseph est le personnage principal de toute cette histoire-là. Ce qu'on voit ici, la descente et toute la famille en Égypte. Et rappelons-nous, Dieu contrôle tout, puis peu de temps avant de mourir, Jacob a prononcé une bénédiction prophétique sur chacun de ses fils. On lit ça dans le chapitre 48-49. Et au chapitre 49, il dit, « Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Judas, tu es un jeune lion. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » Ce passage contient une prophétie annonçant la venue du Sauveur. Et cette prophétie n'aurait pas pu s'accomplir si les fils de Jacob auraient péri dans la famine. Le terrible péché des frères de Joseph a été le moyen que Dieu s'est servi pour amener à les sortir de là, afin que le lion de Juda, Jésus-Christ, puisse y naître pour ensuite mourir sur la croix, ressusciter en gloire et régner sur tous les peuples de la terre. C'est impressionnant. Dans Hébreux, au chapitre 7, verset 14, il est notoire que notre Seigneur Jésus est sorti de Juda. Dieu a pris son peuple, il l'a amené en Égypte, de l'Égypte, il a ressorti de là. Des 12 tribus, il a pris la famille de Juda, puis de là est descendu le Messie. Dieu contrôle tout. C'était quoi le plan de Dieu aujourd'hui, au début? Abraham, Isaac, Jacob, après ça, on est arrivé avec Moïse, on est arrivé avec toutes sortes de dirigeants, on est arrivé avec Josué qui a ramené le peuple, après ça, les juges. Puis là, le peuple a commencé à dire, « Nous, on voudrait avoir un roi comme les peuples. » Ils ont dit ça à Samuel. Dieu dit à Samuel, « C'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Donne-leur un roi. » Quand Dieu permet quelque chose, c'est toujours dans le but de glorifier son Fils. Vous voulez un roi? On va vous donner un roi. Ils ont été en chercher un. C'est qui? C'est eux, le plus grand. Ils l'ont trouvé caché dans la bagarre. Un gars très humble. Deuxième roi, David. Troisième, Salomon. Puis il y en a eu, puis il y en a eu, puis il y en a eu. Pourquoi Dieu a permis qu'il y ait des rois? Parce qu'un jour, son fils était pour venir, puis on va l'appeler le... Voilà. Quand Dieu permet quelque chose, c'est toujours dans le but de glorifier son fils. si Dieu permet des souffrances, des difficultés dans vos vies, peu importe, c'est pour glorifier son Fils. Ça n'a pas l'air de ça, mais c'est ça. L'Apocalypse nous dit, « Alors les anciens me disent, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la race, de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, de toute nation. Le lion de la tribu de Juda, l'agneau sacrifié, lorsque Dieu permet que quelque chose arrive, son but, c'est de glorifier son Fils. Et c'est la même chose qui arrive dans nos vies. Si Dieu permet que quelque chose arrive dans nos vies, son but, c'est de glorifier son Fils. Nous sommes le canal par lequel Dieu va utiliser pour que son Fils soit glorifié. Vivez-vous des difficultés? Pensez-vous que Dieu a le contrôle? S'il a eu le contrôle sur 2 millions, sur 2 millions, il devrait avoir le contrôle sur un. Hein? Mais suis-je prêt à lui obéir? Oui, vous connaissez la différence entre l'école et la vie? À l'école, on apprend la leçon, après ça, on est mis à l'épreuve. Dans la vie, on est mis à l'épreuve, après ça, on apprend la leçon. Pas mal ça, hein? J'ai le temps de vous poser une autre question. Est-ce que Dieu est au courant de la situation qui se passe en 2014? Réchauffement climatique, est-ce que Dieu est au courant de ça? Ça préoccupe beaucoup de personnes aujourd'hui, les scientifiques, les hommes politiques, etc. Le dernier rapport auquel ont participé 2500 scientifiques de 130 pays différents, ils disent que c'est dû à l'augmentation des gaz à effet de serre. Les plus pessimistes parlent même de la disparition de l'humanité. Croyez-vous ça? Croyez-vous que en 2050, comme ils nous annoncent, là, que tout va arrêter, ça va se détruire, l'homme va se détruire, va détruire la terre va se détruire, croyez-vous ça? Est-ce que Dieu contrôle tout? Est-ce qu'il est capable de contrôler ça? Dieu contrôle tout, il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte. Il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte. Il l'a formée pour qu'elle soit habitée. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, qui a formé la terre, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte. Il l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est lui qui dirige. Il n'a pas attendu notre civilisation industrielle pour constater que la terre était souillée. Il savait bien avant ça. Le sol est maudit à cause de toi et te produira des ronces et des épines. Ça fait longtemps qu'il sait. Il y a presque 2000 ans, l'apôtre Paul a écrit, « Nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » L'homme, c'est un mauvais administrateur. Un mauvais administrateur des biens que Dieu lui a confiés. Mais ce n'est pas lui qui va détruire la terre. Ce n'est pas l'homme qui va détruire la terre. On lit dans l'Épître de Pierre. Dans ce jour-là, les cieux passeront avec un fort bruit, les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Dieu va refaire la terre, va la régénérer. Comment il va s'y prendre? Je ne sais pas. Personne de nous autres ne sait pas comment il va s'y prendre. Mais c'est lui qui va le faire. C'est lui qui a le contrôle. Mais, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux, de nouvelles terres où la justice habitera. C'est Dieu qui contrôle. Puis c'est même ça va arriver. Il ne faut pas être inquiète de ce qui arrive avec les affaires climatiques, là. Mais avant tout ça, Dieu use de patience envers vous en voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Les scientifiques aujourd'hui ne croient pas que Dieu contrôle tout. Vous avez entendu parler du robot qui s'est promené là? Ils l'ont trouvé là? Vous avez vu ça aux nouvelles?
Un petit peu?
Selon les scientifiques, ça va nous faire découvrir l'origine de la vie. Ça s'est passé mercredi le 12 novembre, d'une semaine. Le 12 novembre 2014, un événement a eu lieu à plus de 500 millions de kilomètres de la Terre. Un robot s'est porté sur la comète Chury. Chury, c'est un résumé du nom celui qui l'a découvert. Vous avez apporté une petite comète. Elle est ici, la petite comète. La Terre est là. La petite comète est là. Puis selon eux, la comète est tellement loin de tout ça ici que nous autres, on est en train de tout polluer la Terre, mais elle n'est pas polluée. Alors, on va aller faire un tour là, on va aller chercher du matériel, puis on va regarder si ça c'est pur. On pourrait peut-être savoir comment ça se fait que nous autres, ça s'est détérioré. Ils vont se poser des questions, d'après les astronautes. Ils se posent des questions. Ils disent, croyez-vous que la réponse à cette grande question pourrait se trouver dans la poussière de la Terre, dans la comète Chury? Pensez-vous qu'on va avoir la réponse avec ça? Ça a coûté juste 2 milliards, 200 milliards, je crois, en tout cas. Assez pour nourrir tous ceux qui manquent pendant 200 ans. Voilà, un peu comme ça. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 3. Contrairement à l'homme qui, dans son orgueil, comme les hommes à Babel autrefois, ils veulent atteindre des sphères inaccessibles, ils vont rester sur leur appétit parce que Dieu, le Créateur, il voit tout ça, puis à un moment donné, il va dire, les gars, c'est assez. Assez, c'est assez. Comme il est arrivé à Babel, ils ont dit, c'est assez. On arrête là. Ça va être la même chose quand on va dire, c'est assez, c'est assez. Mais avant que ça arrive, tout ça, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est avant que tout ça arrive, Dieu use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dieu contrôle tout. Il peut contrôler nos vies, nos difficultés, il peut contrôler aussi, par toute sa puissance, le salut des âmes perdues. Quiconque est dans la salle ici ce matin et qui n'a pas cette certitude-là que Dieu contrôle tout, il peut s'approcher de Dieu pour lui demander, en passant par une repentance et une nouvelle naissance. C'est obligatoire, il faut. C'est écrit dans le chapitre 3 de Jean, il faut. Ce n'est pas conditionnel. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut passer par là. Mais Dieu use encore de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dieu contrôle tout. Il contrôle nos vies. Peu importe. Pensez, à chaque fois que vous faites quelque chose, dites non. Ce qui m'arrive, je ne comprends pas, mais Dieu le contrôle. Dieu contrôle. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous rappelle que c'est toi qui contrôles. Puis on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est rien de surprenant. C'est arrivé dans le passé, puis ça arrive dans le présent, puis ça va arriver dans le futur. Mais un jour, Seigneur, non seulement tu vas venir nous chercher, mais tu vas aussi prendre le contrôle de cette situation ici. Et tu vas tout refaire ça, Seigneur. Ça nous impressionne, puis on a hâte, Père, de te voir, puis on a hâte de voir ça, si c'est cette terre qui va être refaite, puis tout ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Pour nous autres, c'est encore mystérieux. Mais merci qu'on s'appuie sur ta parole, puis qu'on croit que ça va arriver parce que c'est écrit tel quel. Et merci, Seigneur, pour chacun de nous qu'on est ici ce matin. Que ta grâce surabonde sur nous. On te le demande au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.